CQFD.
Ce lundi 7 novembre, ben c'est justement aujourd'hui que s'ouvre à Genève la 17e édition du colloque Rights pour la science, qui va durer jusqu'à la fin de la semaine. Il est organisé chaque deux ans autour d'un thème. Après le soleil, le quantique ou la chimie, cette année, Sarah Diren, c'est la révolution génomique qui est à l'honneur.
Oui, à l'Uni du Four, grande conférence publique. Il sera question, lors de ce colloque, de neurogénétique, de médecine personnalisée, de notre cousin disparu Néandertal, ou encore d'éthique liée à cette révolution génomique. Et c'en est vraiment une de révolution, puisqu'en 2003, on a décodé notre génome humain, 13 ans de boulot, 3 milliards de dollars pour nous donner le mode d'emploi du vivant, le plan détaillé de notre organisme, et ce code génétique qui contient donc toutes les informations nécessaires au développement et au fonctionnement de notre corps. Bon, aujourd'hui, avec un peu plus de 1000 francs, on décode votre génome en quelques jours.
On va quand même rappeler que décoder le génome, ça veut dire identifier les lettres qui composent l'ADN.
C'est ça, Sylvio. Dans notre corps, nous avons près de 50 milliards de cellules. Vous en prenez juste une. À l'intérieur de cette cellule, vous allez trouver un noyau qui renferme toute notre information génétique, c'est-à-dire nos chromosomes. 23 chromosomes, enfin 23 pères. Voilà, 23 de la mère, 23 du père, 46 en tout. Nos chromosomes qui contiennent de longues chaînes d'ADN, et c'est cet ADN qui porte l'information génétique. Cette molécule d'ADN est elle-même constituée de 4 lettres. A, C, G, T, adénine, cytosine, guanine, thymine, 4 sortes de petites molécules. Et c'est avec ces 4 lettres que nous écrivons le vivant. On prend souvent, Sylvio, cette analogie que vous connaissez de la bibliothèque. Notre génome, c'est la bibliothèque. Le livre, c'est le chromosome. Et les gènes sont les phrases inscrites avec ces 4 lettres. A, C, G, T.
Ouais, des milliards de mots. Hein. Bonjour Yvan Rodriguez.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en duplex de Genève, vous êtes généticien, professeur au département de génétique et évolution de l'Université de Genève. Alors c'est vous qui organisez cette année le colloque RIDE dédié à cette révolution génomique. Alors depuis la découverte il s'appelait Watson et Crick en 53, de la double hélice de l'ADN, est-ce qu'on a un aperçu de tous les mystères?
Ah non, bien entendu. Alors évidemment, le mystère principal était tout d'abord de comprendre que l'information nécessaire à construire et à faire fonctionner un individu était codé dans une chaîne d'ADN. Et maintenant, enfin, on a accès à des génomes entiers. Et c'est très récent. C'est simplement au début du 21e siècle qu'on a commencé à avoir accès à des génomes de mammifères. On ne pouvait pas le faire avant. Et aujourd'hui, eh bien, on peut lire les livres. Alors on les lit, c'est assez lent, ça met du temps. On a besoin de quelques pierres de Rosette, c'est-à-dire pour réussir à comprendre le code, à décrypter le code, mais nous avons plusieurs pierres de Rosette qui nous permettent d'avancer de façon significative.
Alors certes, on a déconné notre génome, on a ouvert le livre, on a lu le livre, mais est-ce qu'on a compris le livre? Est-ce qu'on a interprété le génome?
C'est alors, du chinois.
Oui, alors on commence à le comprendre. La première chose, c'était d'identifier les phrases qui comptent dans ce livre. Et les phrases qui comptent, ce sont celles qui sont responsables de produire des protéines, celles dans lesquelles l'information pour la construction des protéines dans lesquelles l'information est inclue, et c'est ce qu'on appelle des gènes. Et on a été surpris d'ailleurs de réaliser que dans des génomes de mammifères, eh bien, on n'en a pas besoin de beaucoup de ces phrases, on a besoin d'environ 20 000. Ce qui n'est pas grand-chose. Avec 20 000, eh bien, on fait un petit humain, on fait une petite vache, on fait un petit éléphant.
Mais justement, Yvan Rodriguez, est-ce que dans ces 20 000 gènes que nous avons dans notre génome, est-ce que tous ces gènes ont une fonction?
Alors, oui, on en a 20 000 et généralement, on associe à chaque gène, d'une façon générale, une protéine. Alors oui, on peut dire qu'à chaque gène, eh bien, il y aura une fonction. Parfois, on a deux gènes qui semblent faire plus ou moins la même chose. Alors on pourrait effectivement discuter de l'importance de tel ou tel gène s'il a un cousin ou un frère très proche.
Alors on parle beaucoup ces derniers temps d'épigénétique. Rappelez-nous un peu ce que c'est, quel rôle ça joue.
Alors l'épigénétique, oui, on en parle beaucoup effectivement ces jours. C'est une discipline qui étudie les mécanismes moléculaires qui vont moduler l'expression des gènes, du patrimoine génétique, en fonction du contexte. C'est-à-dire que, par exemple, une expérience physiologique pourra modifier, après avoir vécu cette expérience physiologique, ça peut être une maladie par exemple, eh bien ça va modifier l'expression de l'ADN des cellules qui ont vécu en traumatisme par exemple, comme une infection. Et donc, mais évidemment, à la fin, il y a toujours les gènes. Hein. Ce qui compte, c'est les gènes, mais on peut moduler leur expression, on peut induire leur expression, c'est-à-dire favoriser la production de telle ou telle protéine, ou au contraire, l'inhiber, défavoriser l'expression de telle ou telle protéine en fonction du contexte. S'il fait froid, par exemple, si, comme je vous le disais, on est infecté par un virus, par une bactérie, par un champignon, eh bien, notre fonctionnement avec le même livre va être différent dans le futur.
Merci pour ce petit cours de génomique, Yvon Rodriguez. Alors, il y a 4 grandes conférences qui vont ponctuer ce colloque Wright. La première, ce soir, à 18h30, elle est donnée par la neuroscientifique Linda Buck. Alors, Linda Buck, c'est elle qui a identifié les gènes qui codent pour les récepteurs olfactifs. Elle a reçu le prix Nobel de physiologie en 2004 pour cette découverte. Vraiment, Yvon Rodriguez, c'est la fine fleur de la génétique que vous avez conviée à ce colloque.
C'est certain, oui, c'est une cuvée tout à fait spéciale. Ça n'est d'abord pas tous les jours qu'on va écouter un prix Nobel. C'est encore moins fréquent que ce prix Nobel soit une femme, parce qu'il n'y a pas beaucoup de prix Nobel qui soient des femmes. Et c'est encore moins courant que ce prix Nobel s'adresse à un public non spécialisé, avec une conférence dédiée à ce public non spécialisé. Donc c'est tout à fait exceptionnel et j'encourage bien entendu tout le monde à venir écouter Linda Buck, mais aussi les speakers qui suivront mardi, jeudi et vendredi.
Oui, mardi, il sera question de médecine personnalisée.
Voilà, tout à fait. C'est un généticien qui est directeur du Centre de génomique et de médecine personnalisée de Stanford, Michael Snyder, qui viendra nous parler d'un domaine qui est en train d'exploser et qui est directement affecté par les progrès de la génomique. C'est basé simplement sur le fait que nous sommes, nous tous, différents génétiquement et que ces différences génétiques nous font réagir de façon différente face aux pathogènes et face aussi aux outils, aux médicaments qu'on utilise pour combattre ces pathogènes. Et donc, il est très utile de connaître nos spécificités individuelles lorsqu'on est malade.
On va revenir sur ces questions et sur les questions éthiques notamment que soulève cette révolution génomique au futur de nos patrimoines génétiques aussi. Mais d'abord, Sarah Diren, on va s'intéresser quand même un peu à au passé de notre patrimoine génétique, à celui de Néandertal.
De Néandertal, ce sera effectivement l'objet mercredi d'une conférence. Alors Néandertal...
Jeudi.
Néandertal, un de nos cousins disparus il y a près de 28 000 ans. Alors son génome a été séquencé en 2010 et au sein de l'unité d'anthropologie du département génétique et évolution de l'université de Genève, Mathias Cura s'y intéresse à ce génome. Il s'intéresse à la génétique des populations. Il tente de comprendre la diversité génétique des populations humaines dans un contexte évolutif. Il traque nos origines d'Homo sapiens à travers des méthodes statistiques et des méthodes bioinformatiques. Le séquençage de Néandertal a révélé que nous, humains modernes, donc Homo sapiens, avions 1 à 2% de gènes en commun avec Néandertal. Ça veut donc dire, Mathias Cura, que deux espèces différentes ont pu se croiser, s'hybrider il y a 60 à 40 000 ans ?
Exactement. Donc, il s'agit de deux espèces différentes, deux espèces du genre Homo, Néandertal et Homo sapiens. Et vraisemblablement, il y a eu des événements d'hybridation de ces deux espèces, peu nombreux. Ces événements d'hybridation ont eu lieu lors de la sortie d'Afrique d'Homo sapiens, puisque l'origine d'Homo sapiens est en Afrique. Et lorsque la route d'Homo sapiens a croisé les populations de Néandertal qui vivaient principalement en Europe, au Proche-Orient et probablement aussi en Asie centrale. Et ensuite, ces humains modernes auraient emporté avec eux, si je peux l'expliquer comme ça, ces petites portions d'ADN néandertalien. Donc on a estimé qu'entre 1 et 2% du génome de la plupart des humains qui vivent actuellement autour du globe serait issu de Néandertal. Et donc actuellement, les laboratoires ou les chercheurs sont en train de travailler pour essayer de savoir exactement quelles sont ces portions de génome héritées de Néandertal et quelles pourraient être leurs fonctions.
Alors, une portion de génome hérité de Néandertal, mais Yvan Rodriguez, il y a même des récentes études qui ont mis en évidence que Néandertal aurait en fait boosté le système immunitaire de nous autres, Européens. Comment est-ce qu'on arrive à une telle conclusion?
Oui, alors bien involontairement, bien sûr, ils l'ont boosté. Il y a deux façons d'obtenir de la nouveauté au niveau génomique, au niveau génétique. C'est soit en accident génétique, c'est ce qu'on appelle des mutations, il faut attendre un moment et puis les choses arrivent. Généralement, c'est pas bon, mais parfois c'est assez utile. Ou alors, on va le voler à un voisin avec qui on peut se croiser. Et c'est effectivement, comme le mentionnait Mathias Curas, c'est ce qui s'est passé. On s'est croisé avec Néandertal, volontairement ou pas, on ne sait pas tout à fait. On s'est d'ailleurs aussi croisé avec une autre espèce, qui sont les Denisoviens, dont nous entendrons parler aussi jeudi. Et heureusement, l'ADN est une espèce de mémoire qui garde les traces, qui nous indique d'où cet ADN provient et aussi s'il a été utilisé ou pas. Et on a identifié effectivement très récemment des gènes spécifiques, des gènes qui semblent impliqués dans les mécanismes de défense contre les pathogènes, c'est-à-dire qui sont impliqués dans le système immunitaire, dans le combat contre les maladies, qui ont été volés, entre guillemets, aux Denisoviens et aux Néandertals et qui se retrouvent chez une partie de la population humaine. Et on retrouve des traces justement de cette utilisation et même de cette spécialisation de ces récepteurs qui ont été volés. Donc l'hypothèse la plus simple, la plus parcimonieuse, pour expliquer cette observation, est ce qu'on appelle l'introgression, c'est-à-dire le vol d'un gène à une espèce voisine.
Lorsque on parle d'ADN, Yvan Rodriguez, on parle aussi d'ADN mitochondrial, qui est un ADN qui se situe à l'extérieur du noyau, qui est plus facile à décrypter et qui est transmis par la mère. Est-ce que c'est cet ADN-là qui a été également décodé?
Alors, il est souvent utilisé comme première approche parce qu'effectivement, il est plus facile à séquencer et il est beaucoup plus petit. Pour le coup, là, ces derniers articles récents ne concernaient pas l'ADN mitochondrial. La réalité, c'est qu'on veut toujours arriver à l'ADN nucléaire, c'est-à-dire à l'intérieur du noyau, parce que c'est lui qui contient plus de 99% des gènes dont on peut disposer. Le livre, les 99 tomes sur les 100 tomes, sont dans le noyau.
Alors, Sarah, des études, donc on vient de l'entendre, des études ont mis en évidence les croisements qu'Homo sapiens avait pu faire avec d'autres espèces, mais aussi les migrations de nos ancêtres européens.
Et oui, des études qui ont fait le lien génétique entre différentes vagues de migration. Alors, d'une part, les premiers agriculteurs qu'on trouve dans le centre de l'Europe, le sud de l'Allemagne, et ceux arrivés il y a environ 7000 ans de l'est de la Turquie, de la Grèce, donc autour de la mer Égée. Les données génétiques complètent évidemment les connaissances archéologiques ou paléontologiques. J'ai demandé à Mathias Curas, et je rappelle qu'il est généticien des populations, ce qu'on observait justement au niveau génétique.
En fait, ce qu'on voit, c'est que sur les populations de chasseurs-cueilleurs présentes en Europe centrale avant l'arrivée de l'agriculture, on a justement certains variants génétiques qui sont assez fréquents. Et puis, la fréquence de ces variants diminue fortement au début de l'agriculture et on le retrouve beaucoup moins dans les populations des premiers agriculteurs de la même région. Ça nous laisse penser que, il y a eu une arrivée de migrants qui ont amené avec eux leurs connaissances sur la domestication dans ces régions.
Pour bien comprendre, Mathias Curas, si je compare un ADN qui a moins de 150 000 ans avec le mien,
oui.
Je suis à quel pourcentage? 99,9% de similitude?
Alors tout à fait. Donc, le génome de deux humains, je vais parler d'abord d'humains vivant actuellement autour du globe, est similaire à 99,9%. Et donc, il s'agit d'une moyenne à l'intérieur de notre espèce, pour notre espèce Homo sapiens. Donc si on analyse un génome même ancien, d'un individu préhistorique, on va retrouver le même genre de similitude. Donc, très grande proportion du génome est similaire. Et c'est en fait sur les 0,1% de différence qu'on va travailler en génétique des populations pour voir en fait comment sont distribuées ces différences autour du globe ou entre populations modernes et populations plus anciennes.
Mais qu'est-ce qui fait justement, Mathias Cura, qu'il y a des variations génétiques? C'est dû à quoi?
Alors, ces variations génétiques, elles sont dues à l'apparition de mutations dans l'ADN. Et puis, si ces mutations ne sont pas néfastes pour l'organisme dans lequel elles apparaissent, eh bien, elles peuvent être transmises à la génération suivante. Donc, on a apparition d'une certaine diversité génétique de cette façon. Et ensuite, cette diversité, eh bien, elle est façonnée autour du globe, si je peux dire ainsi, par la démographie des populations, c'est-à-dire par les migrations des populations. Donc, dans l'ADN des humains, on peut retrouver de l'information, évidemment sur l'évolution de notre espèce, mais également sur les migrations passées et sur la démographie passée de notre espèce. Et c'est donc en analysant avec des méthodes statistiques appropriées ces données génétiques qu'on va essayer d'extraire cette information et d'en tirer des informations sur les migrations passées, sur l'évolution de notre espèce, etc.
Il y a une distance génétique qui correspond à une distance géographique?
Alors, on sait que la diversité génétique humaine est distribuée autour du globe de façon continue. C'est-à-dire qu'on a une très grande corrélation entre la géographie et la diversité génétique. La règle générale est que plus deux populations sont proches géographiquement, et plus elles vont tendre à être également similaires génétiquement. Et il n'y a pas de rupture abrupte ou de changement abrupt de ces diversités génétiques autour du globe. Donc, on voit vraiment un continuum depuis l'Afrique vers l'Europe, l'Asie, etc. et l'Amérique, qui correspond d'une part à l'expansion des premiers Homo sapiens et d'autre part aux migrations qui se font plus souvent de proche en proche que de façon éloignée. C'est un peu différent aujourd'hui, mais en tout cas dans le passé, ces migrations de proche en proche entre humains ont permis de créer ce phénomène de distribution continue de la diversité génétique.
Ça veut dire que la barrière géographique équivaut à la barrière génétique?
Non, je dirais plutôt que les distances génétiques sont fortement corrélées aux distances géographiques. Par exemple, si on a une barrière géographique, comme on peut penser à l'Himalaya ou une mer, etc., alors là, on va voir des différences qui sont un peu plus marquées. Donc, la règle générale, c'est cette continuité de la diversité génétique avec la géographie. Mais effectivement, bien, c'est plus complexe que ça, puisqu'on a des différences qui se créent dues aux différences culturelles, dues à l'histoire des populations.
Qui se ressent dans les gènes.
Qui se ressent dans les gènes. Évidemment, plus loin on remonte dans le temps et plus c'est difficile d'arriver à reconstruire les choses avec beaucoup de précision.
Mais on ne peut pas dire pour autant, Mathias Cura, qu'il y a des marqueurs génétiques européens, africains ou asiatiques. C'est un raccourci de le dire.
C'est un raccourci. Il y a des variants génétiques qui sont plus fréquents dans certaines régions que dans d'autres. C'est pour ça qu'on arrive justement à voir des différences géographiques entre les différentes populations humaines. Mais on parle ici de fréquence de ces variants génétiques. Donc un variant génétique qui serait plus fréquent en Europe, ça ne veut pas dire qu'il est complètement absent ailleurs. C'est pour cette raison qu'on va analyser de nombreuses portions du génome, puisque chacune d'entre elles va nous raconter une histoire un petit peu différente. Et donc, c'est la combinaison de ces différentes portions du génome qui va nous permettre d'en savoir plus sur l'histoire des populations.
Merci donc à Mathias Cura, maître d'enseignement à l'unité d'anthropologie du département génétique et évolution de l'Université de Genève. Alors, Yvan Rodriguez, on a évoqué l'ADN passé, on voit un peu l'ADN présent aussi, mais dans le futur, si je suis un scientifique dans 200, 300 ans qui observe le patrimoine génétique d'Homo sapiens, est-ce que je verrai une différence par rapport à maintenant?
Alors, probablement pas. Alors, il faut, bien sûr, on peut faire confiance au hasard, des accidents génétiques associés à des pressions de sélection pour le changement. Ben, nous savons tous qu'il y a environ 80 millions d'années, eh bien, nous partageons l'ancêtre commun avec la girafe, le chat et l'humain. Et donc, les mécanismes de hasard associés à la sélection fonctionnent très bien. Mais c'est trop court pour que ça se passe comme ça. Par contre, si nous vivons une grande épidémie qui ravagerait une partie significative de la population, alors bien sûr, on pourrait avoir une évolution extrêmement rapide des génomes des gens qui peuplent la Terre, mmh. ou alors si on commence bien aussi à modifier nos génomes de façon artificielle, alors bien entendu, en quelques générations, on pourra modifier notre livre,
oui.
le livre de nos voisins, des poissons, des vaches.
Oui, effectivement, Yvan Rodriguez, aujourd'hui nous avons les moyens techniques, on a des couteaux suisses de la génétique pour modifier le patrimoine génétique de notre espèce. Et c'est justement l'enjeu la dernière conférence, vendredi, du Colloque Wright avec le philosophe Peter Sloterdijk. Qui est-il ?
Alors c'est un philosophe essayiste majeur contemporain qui a des qualités pédagogiques remarquables. Je le mentionne pour ne pas faire peur aux gens qui pourraient venir l'écouter. En tout cas, je les encourage. Et il a écrit sur des sujets très divers, mais en particulier sur l'avenir de notre espèce, sur ce qu'on appelle le transhumanisme. Et bien entendu, il y a un lien direct avec la révolution génomique. Puisque non seulement cette révolution nous permet une meilleure compréhension des mécanismes de la vie et de l'évolution, mais associée à ce que vous mentionnez, c'est-à-dire la capacité à modifier les génomes, eh bien, elle nous questionne sur notre propre espèce et sur ce que nous voulons qu'elle devienne.
Oui, alors c'est pas n'importe qui, effectivement. Donc, à pas manquer cette conférence, ce sera le 11 novembre à 18h30 à l'Uni du Four à Genève. L'entrée est libre. Ne pas manquer également les autres conférences, mais aussi le spectacle son et lumière, c'est qui illumine la façade du bâtiment Unibastion. C'est tous les soirs jusqu'au 20 novembre. 3 représentations d'une durée de 20 minutes à 17h45, 19h et 20h30. Merci beaucoup, Yvan Rodriguez. Je rappelle que vous êtes généticien, professeur au département génétique et évolution de l'Université de Genève. Vous organisez ce colloque Wright qui débute ce soir à 18h30 avec une prix Nobel, Linda Buck. Très bonne journée à Genève.
Merci.
Et merci. Au revoir.
CQFD sur la première.